Merci d'écouter RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
L'heure de retrouver, comme tous les soirs, votre journal en français facile. Avec à la une, ce premier jour de procès pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il se défend des accusations de corruption. Des manifestations de soutien étaient organisées aujourd'hui. Moins de 100 morts en 24 heures, là où il y a quelques semaines, les bilans du coronavirus atteignaient les 1000 décès par jour. La contagion ralentit dans l'État de New York, aux États-Unis. En France, après la réouverture des plages, ce sont les églises qui reçoivent de nouveau des fidèles, vous les entendrez. Et puis la mort d'un homme de lettres et d'un académicien, Jean-Loup Dabadi, s'était éteint en France ce matin. Son parcours à la fin de ce journal.
Les journaux.
Le journal en français facile.
En français facile.
Ça n'était jamais arrivé en Israël, mais pour la première fois, aujourd'hui, un chef de gouvernement en exercice s'est présenté devant la justice pour faire face à des accusations criminelles de corruption au cours de son mandat. Benjamin Netanyahou évoque des accusations ridicules, mais il reste inculpé dans 3 affaires pour un procès qui pourrait durer des mois, voire des années. La prochaine audience a été repoussée au 19 juillet, mais les manifestations ont déjà commencé aux abords du tribunal et devant sa résidence. RFI Jérusalem, Michel Paul.
Bibi, roi d'Israël, chantent les manifestants devant la résidence du Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou n'est pas seul, proclame-t-il, et il dénonce l'acharnement contre le chef du gouvernement.
La gauche en Israël est hypocrite. Il y a des gens qui sont membres d'une secte anti-Bibi. Ce qui est important pour eux, c'est qu'ils ne soient pas au pouvoir.
La gauche s'est emparée de la justice en Israël, affirment encore les manifestants. Les supporters de Benjamin Netanyahou n'hésitent pas à comparer le procès du Premier ministre à celui du capitaine Dreyfus. Face à eux, une manifestation de drapeau noir. Netanyahou veut transformer le pays en dictature, affirme Shai Harel.
Moi, je pense que Bibi, c'est comme le cancer d'Israël. Vraiment, qui détruit tout ce qu'il y a au pays. Moi, je n'ai pas besoin de roi. Moi, j'ai besoin de mon pays normal, pas autre chose.
Les manifestants opposés à Netanyahou arborent des masques anti-Covid-19 avec ces mots « Premier ministre criminel » et « fait inhabituel en cette période de l'année ». Il a plu à Jérusalem ce matin. Dans les deux camps, on a affirmé que c'est le ciel qui a versé des larmes. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
En Afghanistan, c'est une avancée et un signe d'espoir. Le président Ashraf Ghani s'est engagé aujourd'hui à faire libérer 2000 prisonniers talibans et entamer des discussions de paix avec les insurgés. Les négociations auraient dû commencer début mars, comme le prévoyait l'accord de paix signé avec les États-Unis. Mais les talibans exigeaient avant tout ces libérations et les derniers mois, une flambée de violence a secoué le pays. Mais les talibans ont créé la surprise hier en proposant un cessez-le-feu de 3 jours à l'occasion de l'Aïd. C'est la première fois depuis 2001 qu'ils appellent d'eux-mêmes à poser les armes. Des centaines de noms à la une d'un des journaux les plus connus du monde, alors que les États-Unis s'apprêtent à passer la barre symbolique des 100 000 morts du coronavirus, le New York Times consacre son édition d'aujourd'hui à la mémoire d'un millier d'entre eux et évoque la vie de chacune de ces victimes, alors que le pays est toujours le plus touché de la planète. La contamination ralentit dans l'État de New York, qui était ces dernières semaines l'épicentre de l'épidémie, c'est-à-dire l'endroit où le virus se répandait le plus aux États-Unis. Lors de sa conférence de presse quotidienne, le gouverneur démocrate Andrew Cuomo s'en est félicité. Écoutez.
Les chiffres d'hospitalisation sont en baisse et le nombre de décès est de 84 en 24 heures. Bien évidemment, 84 vies perdues, ça reste une tragédie. Mais cette baisse est vraiment une bonne nouvelle. Il y a quelques semaines, j'ai demandé à un spécialiste de santé publique quel chiffre je devrais viser en tant que seuil pour le nombre de morts. Et le docteur me disait, je pense que si vous arriviez à un chiffre en dessous de 100 morts par jour, ce serait le signe d'une amélioration. À partir de là, j'ai toujours visé cet objectif d'arriver à moins de 100 morts. Aujourd'hui, nous y sommes. Bien sûr que ça ne soulage en rien la douleur des 84 familles, mais pour moi, c'est le signe que nous faisons de vrais progrès et je m'en réjouis.
Andrew Cuomo, gouverneur de l'État de New York, aux États-Unis. Du côté de Washington, la Maison-Blanche a averti aujourd'hui la Chine que si elle menait à bien son projet de loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, la province pourrait perdre son statut commercial privilégié. Pékin veut interdire la trahison, la sécession, la sédition et la subversion dans la région, près d'un an après le début des grandes manifestations pro-démocratie. Dans les rues de Hong Kong, des milliers de personnes ont bravé aujourd'hui l'interdiction de manifester pour protester contre ce texte face aux canons à eau et aux gaz lacrymogènes de la police.
Le journal en français facile.
En ce jour de l'Aïd, qui marque la fin du Ramadan, beaucoup de musulmans du monde ont dû prier chez eux, loin des mosquées, pour éviter le risque d'être contaminés par le coronavirus. En France, ils auraient pu retourner dans leur lieu de culte, puisque les cérémonies sont de nouveau autorisées. Mais le Conseil français du culte musulman les a appelés à rester à la maison. Côté catholique, en ce week-end de l'Ascension, les messes reprennent doucement avec des consignes strictes. Ce matin, notre journaliste Laurence Théo s'est rendu devant la paroisse Saint-Joseph des Nations dans le nord de Paris. À quelques minutes de la messe, elle a tendu son micro à des fidèles heureux de retrouver leur église.
Je suis venue une demi-heure à l'avance parce que j'ai lu qu'il y aurait un filtrage, une surveillance, une prévention. Et puis on voit déjà des gens qu'on n'a pas vus et qui sont déshabitués. Et voilà, alors ça fait plaisir.
On peut très très bien se mettre à prier ensemble et respecter tout ce qui est comme protocole sanitaire. Ça ne se discute même pas.
Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait la messe. Ça m'avait un peu manqué.
Ah ben oui, on attendait ça avec. Parce que pour nous, la guérison, elle se passe par la prière.
Allez, mes chères sœurs.
Depuis le temps que j'attendais ça, depuis le mois de mars, et je suis très contente qu'il y ait une messe, que les messes reviennent, pour pouvoir prier et prier pour tous ceux qui sont malades.
Pour nous, le fait de retrouver l'Eucharistie et de pouvoir vivre en communauté, c'est quelque chose qu'on attend depuis 2 mois. Parce que notre religion, c'est de la vivre ensemble, c'est pas de la vivre individuellement devant un écran de télé.
Ces fidèles catholiques au micro de Laurence Théo devant une église rouverte dans le nord de Paris. Alors que la France pleure ce soir, un homme de lettres, un ancien journaliste, un auteur de sketchs, de chansons et de scénarios. C'est une seule personne dont je vous parle. L'artiste et l'académicien Jean-Loup Dabadie s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 81 ans. Après une carrière on ne peut plus riche, il était entré sous la coupole de l'Académie française en avril 2008. Retour sur son parcours avec Elisabeth Le Quéré.
On ira tous au paradis, ben moi.
Spécialiste de rien mais doué en tout, ainsi aurait pu se définir Jean-Loup Dabadie. Auteur de sketchs, parolier de chansons, scénariste de films, adaptateur de pièces, on s'épuiserait à énumérer la liste de toutes les cordes que ce surdoué comptait à son arc. Jean-Loup Dabadie a 19 ans, il sort à peine du lycée quand il se fait repérer par les éditions du Seuil qui publie son premier roman, Les yeux fermés. C'est le début d'une folle carrière. Reporter pour Pierre Lazareff, il écrit aussi des sketchs pour Guy Bedos, entre autres Bonne fête Paulette. Son talent est si évident que le cinéma met aussitôt la main sur le jeune prodige. En 70, sa rencontre avec Claude Sautet fait de lui le scénariste incontournable du cinéma français. Ensemble, le tandem enchaîne les réussites, les choses de la vie ou encore César et Rosalie. Dabadie multiplie les collaborations avec Claude Pinoteau, Jean-Paul Rapneau ou encore Yves Robert, pour qui il écrit « Un éléphant, ça trompe énormément et nous irons tous au paradis ». Parallèlement, il mène une brillante carrière de parolier pour Michel Polnareff, Yves Montand et même Johnny Hallyday. Entre 1976 et 2005, il avait travaillé avec Julien Clerc sur plusieurs albums, écrivant notamment les titres « Ma préférence » et « Femme, je vous aime ».
Je vous aime, femme, je vous aime.
Femme, je vous aime, la voix c'est celle de Julien Clerc, mais les mots sont de Jean-Loup Dabadie qui est mort aujourd'hui. En se quittant musique, merci d'avoir suivi ce journal.